Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et une nouvelle fois, je vous parle de Ho Chi Minh Ville. Cette semaine, je suis rejoint dans le podcast par Laurent Bourelli de laurentbourelli.com, autrement appelé le SEO Rockstar. Laurent est un poids lourd du référencement en France. Et ensemble, on va discuter aujourd'hui de comment il a commencé en 2004 avec un concours de référencement. Vous allez voir, c'était ce qu'on appelle un mangeur de cigogne. Vous allez aussi découvrir pourquoi Laurent a décidé de ne pas monter une grosse équipe et pourquoi il a décidé de garder des opérations plus réduites. Et enfin, on parlera du futur du référencement. Et Laurent nous expliquera pourquoi il pense que Google mène une guerre psychologique contre les webmasters. J'ai adoré faire cette interview et j'ai appris énormément de Laurent au cours de ces 45 minutes. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et donc, sans plus de transition, je vous présente Laurent Bourelli. Salut Laurent, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Stan, merci de m'accueillir.
Donc Laurent, j'ai vu sur ton blog que tu es décrit dans la bannière du haut comme un SEO rockstar. Comment est-ce que tu te présentes quand tu rencontres des gens, que ce soit un client ou un partenaire potentiel, disons des gens qui comprennent bien le web marketing? Est-ce que tu dis « Bonjour, je suis Laurent, le SEO rockstar
?» Pas du tout. Non, moi je dis ça s'est d'ailleurs encore passé pas plus tard que ce week-end où je faisais une course de VTT et quand je me présentais, je dis moi je spam Google quoi.
D'accord.
Et là, on comprend tout de suite. Maintenant, si tu veux la petite histoire derrière SEO Rockstar, c'est en fait... ça me dérange pas que ce soit pris dans le sens « Ouais, il se la pète, te rends compte, machin. » Mais en fait, c'est plus un pied de nez à tous ceux qui s'autoproclament spécialistes ou experts. Parce que ça veut rien dire. Voilà, je suis expert référencement. Non, j'ai un expert comptable, mais un expert référencement, je sais pas trop ce que c'est. Et donc, du coup... Voilà, j'avais mis ça vraiment comme ça, un petit peu comme pour rigoler. Et c'est devenu mon étiquette officielle. Mais non, moi, je l'utilise pas personnellement comme mise en avant. C'est plus, effectivement, la baseline sur mon blog, mais ça s'arrête là.
Ok, donc tu te décris comme spammeur de Google. Du coup, à ce sujet, je voulais revenir un peu avec toi sur tes débuts en SEO. Est-ce que tu peux me dire ce que signifie « mangeur de cigogne » pour toi ?
Mangeur de cigogne. Alors, c'est un concours de référencement qui a carrément tout changé pour moi. Un concours de référencement, qu'est-ce que c'est ? C'est, on te donne un mot-clé complètement absurde, comme en l'occurrence là, mangeur de cigogne. Pourquoi ? C'est parce qu'on essaie de partir de frais, donc c'est en principe une recherche qui a pas ou peu de résultats. Et ensuite, on te donne une date sur laquelle tu dois être positionné premier pour gagner. Voilà, en principe, à l'époque, donc on avait 3 mois pour être premier sur le mot-clé mangeur de cigogne. Et c'était le deuxième concours de référencement dans le monde et le premier en France. Et ça a créé d'ailleurs une espèce de... Bon, j'ai terminé moi troisième, mais ça a créé une nouvelle espèce référenceur qui arrivait à monétiser, à gagner de l'argent et beaucoup d'argent avec... leur propre site, mais c'est surtout comme ça que moi personnellement j'ai compris comment fonctionnait Google, quoi. Parce que quand tu passes 3 mois 20 heures sur 24 à faire des tests pour 1 faire grimper ta page et 2 faire tomber les autres, quoi que tu fasses d'ailleurs, enfin je veux dire, tu passes 3 mois pour apprendre à faire du violon, pour apprendre à conduire une moto ou je sais pas quoi d'autre, tu vas forcément devenir bon, quoi. C'est pas possible autrement. Et c'est là que j'ai vraiment compris le potentiel de la valeur, de la valeur du positionnement sur des mots-clés et tout le biz qu'on pouvait faire derrière.
C'était en quelle année ça ?
2004.
Donc c'était vraiment tôt ?
C'était tôt, mais donc à l'époque c'était vraiment je gagnais de l'argent avec mes propres sites. et je faisais pas du tout de consulting.
Donc, qu'est-ce qu'il y avait à gagner dans ce concours? Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler 20 heures sur 24, comme tu l'as dit, sur ce concours-là?
Il n'y avait absolument rien à gagner, c'était complètement nouveau, c'était en fait sur un forum qui s'appelait Webmaster Hub, où tout le monde s'est emballé, tout le monde s'est pris au jeu, et ben, la journée on faisait nos actions pour voilà, faire monter nos pages, et puis la nuit on collaborait, c'est-à-dire qu'on se retrouvait sur IRC ou sur un chat, et puis on expliquait entre potes hein, ce qu'on avait fait, et puis on observait. À l'époque on pouvait voir ce qu'on appelle le refresh, c'est-à-dire tu avais les data centers, les serveurs de Google qui se mettaient en branle et tu faisais F5 là, sur ton clavier donc, et tu voyais les mouvements, les résultats qui étaient en train de bouger pour ensuite se stabiliser ou pas d'ailleurs et ça donnait le classement du lendemain.
Donc c'était la compète pour toi.
C'était compète, non, c'était plus une espèce d'excitation. Bien sûr que c'était la compétition, on veut gagner, mais c'était surtout cette espèce de frénésie et le fait que l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'on était plusieurs hein, à s'entraider ou à se combattre. Et voilà, c'est une compétition, mais c'est surtout que c'était tout nouveau, c'était la première fois, donc c'est un petit peu après, il y en a eu d'autres, mais ça a plus jamais été pareil. Il n'y a jamais eu la même ambiance qu'avec ce premier concours.
Et pour toi, ça a débouché sur beaucoup de choses, du coup, parce que tu as quand même monté ta carrière presque sur ce concours. Enfin, les idées qui sont venues de ce concours.
Ah ben, j'ai surtout monté mon compte en banque, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est ce qui même a conditionné mon départ de France, puisque quand j'ai commencé à gagner un peu de sous avec des systèmes que vous connaissez tous aujourd'hui, hein, que ce soit assez. Moi, je me suis inscrit à AdSense peut-être 3 mois après le début du programme. Donc, on faisait. Enfin, c'était fabuleux. Tu pouvais avoir 30% de CTR, quoi, sur tes pages. On optimisait, c'est à l'époque la résolution moyenne c'était 800 par 600. Tu faisais un bet annuaire, tu vois, tu mettais le gros pavé AdSense, tu faisais quelques BR là pour avoir les résultats entre guillemets naturels un peu plus bas. Et le gars, qu'est-ce qu'il voyait au milieu de son écran 800 par 600? Un gros pavé AdSense. Donc il cliquait, forcément c'était magique. On a fait, et puis bien sûr, l'affiliation et la revente de sites. Je positionnais, je mettais une semaine pour monter un site, pour le positionner. Ensuite, je mettais tout simplement un panneau à vendre dessus. Et ça, j'en ai vendu des wagons, quoi. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à gagner un peu de sous, alors ça va bien de planquer tes thunes aux States là, avec ta carte NetTeller, mais faire le tour des distributeurs pour retirer 300 euros à chaque fois, ça va bien un moment. Et puis surtout, en France, tu peux pas vraiment profiter de tes sous, quoi. C'est mal vu. Et puis il y a plein d'impôts. Donc je suis parti en Andorre.
Donc, tu t'es installé en Andorre.
Voilà.
D'accord. Explique-moi comment est-ce que tu as parlé de monter tes propres sites, de monter tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Tu montes des propres sites, tu rankes des sites pour ton propre compte?
Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est j'avais un site sur lequel je m'exprimais à propos du référencement et c'était peut-être, si je devais inventer quelque chose, j'ai même sorti un guide à l'époque, en collaboration avec SEO Moz et avec Marie Pourréron. C'était la première fois qu'en quelques dizaines de pages, on t'expliquait voilà, comment ça marchait. L'autre alternative, c'était tu devais taper 250 posts de WebRank Info ou alors lire le bouquin d'Olivier Andrieux qui fait, je sais pas, 500 pages. C'est un petit peu lourd.
Donc ce bouquin-là, c'était en quelle année?
Le bouquin d'Andrieux, il est sorti. Quand est-ce qu'il est sorti? Oh, peut-être 2005, 2006, un truc comme ça.
Ok.
Mais moi, non, moi, c'était un guide PDF. Et donc, oui, ce qui s'est passé, c'est que ben, vu que je partageais et surtout vu que j'avais des résultats, petit à petit, les gens ont commencé à me demander du conseil. Et ensuite, j'ai fait payer ce conseil. Et au fur et à mesure, ben, au début, c'était 80% de mes revenus, c'était mes propres sites et 20% peut-être le conseil. Et au fur et à mesure, ça s'est renversé. Et aujourd'hui, non, je monétise quasiment plus de sites, peut-être une poignée. Mais par contre, là, oui, depuis le début du mois, j'ai remis en place des stratégies et ça va repartir avec des nouveaux modèles. Ah si, quand même, si, j'ai fait il y a 3 ans de ça une expérience de ce qu'on appelle la master franchise. Alors, je sais pas si tes auditeurs sont familiers avec ce qu'on appelle le dropshipping.
Donc tu peux expliquer ce que c'est, ça peut éclaircir.
Bon, l'affiliation, c'est voilà, tu balances un visiteur sur un site web, le visiteur fait un achat et toi, à la fin du mois, tu as une com par rapport à cette vente. Dropshipping, c'est différent. C'est tu encaisses le client et ensuite, derrière, le fournisseur va envoyer le produit en marque blanche à ton nom et tu lui donnes une commission. Moi, ce que j'ai fait, c'est différent et je pense avoir été le premier, en tout cas en France, à faire ça. C'est j'ai pris un gros acteur du web francophone, voilà, un gros marchand qui était très fort en France, mais qui n'avait pas de visibilité à l'international. Et je lui ai dit, je prends tes sites, tes noms de domaine à l'international, je monte le site, voilà, je l'exploite, le nom de domaine continue de t'appartenir. Donc, on a signé un contrat de ce qu'ils appellent master franchise. D'ailleurs, j'ai l'exclusivité de l'exploitation de sa marque dans un pays, et c'est toute la différence avec l'affiliation, parce que là, tu fais du vrai chiffre d'affaires plutôt que basé sur une commission. Là, c'est sur l'intégralité de la vente. Et l'avantage par rapport au dropshipping pur et simple, c'est que dropshipping, tu es tout seul comme un couillon avec ton domaine, quoi, tout neuf. Tandis que là, j'étais rattaché à une grosse marque, à un gros groupe, avec toute la puissance de feu marketing que ça implique. Et par contre, l'astuce, c'est que à la revente, il fallait racheter le contrat parce que, bien sûr, je sais quelle est la valeur d'un site quand tu as fait du chiffre. Mais là, contrairement encore une fois au dropshipping, bah, c'était vendu d'avance puisque même si le domaine ne m'appartient pas, pour le reprendre, il fallait racheter le contrat.
Donc une fois que tu as monté leur site, tu leur as revendu la partie que tu avais construite à l'international.
Voilà, après, c'est ça. Si on devait divorcer, bah, c'était effectivement basé sur calcul sur la marge, etc. Mais c'est beaucoup plus avantageux que le dropshipping parce que, ben oui, tu t'en fous si le domaine t'appartient ou pas. L'important, c'est qu'il ait une valeur à la revente, quoi. Et là, si c'est déjà vendu d'avance, c'est quand même très, très intéressant.
Est-ce que tu peux dire de quel pays il s'agissait ou est-ce que c'est secret?
Non, c'est même le domaine. Moi, c'était Fitness Boutique. Et c'était. Alors, les pays, il y avait Belgique, Hollande, Angleterre, Espagne, je crois. Et il devait y avoir l'Allemagne. Et ça a capoté, non pas pour un problème de business, mais pour un problème d'associé, quoi. En fait, moi, je connaissais. On était trois. Je connaissais bien le mec qui s'occupait de tout ce qui était technique. Après, l'autre qui s'occupait plus de tout ce qui est voilà, fournisseur, relations clients, etc. Je les connaissais bien tous les deux. Eux ne se connaissaient pas et ils ne se sont pas du tout entendus. Ce qui était vraiment devenu bloquant pour le business. Et puis, j'ai préféré dire, allez, fuck, on arrête. J'ai pas besoin d'un. Toute ma vie, j'ai essayé d'évacuer le facteur emmerdement, comme je dis. Mais ce n'est pas exclu que je recommence un modèle comme ça. Parce que c'était vraiment très très intéressant et là c'est déjà le niveau supérieur du point de vue au commerce, mais sans avoir à gérer de stock, enfin d'achat de stock, de logistique, etc., quoi.
Tu te concentres uniquement sur la partie que tu sais le mieux faire, en fait.
Voilà. Alors c'est pas, il faut quand même avoir un peu de budget, hein. C'est pas rien quoi de monter des structures comme ça, mais ça n'a rien à voir avec bidouiller avec de l'affiliation comme on le fait tous depuis très longtemps, quoi.
D'accord. Donc du coup, si l'impression que j'ai eue, la raison pour laquelle tu as monté moins tes propres sites au fil du temps, c'est en partie parce que les sources de monétisation n'ont pas forcément suivi la montée de la compétition. Vu que ton AdSense, il ne marche pas aussi bien qu'avant, mais derrière, tu as beaucoup plus de gens qui se bousculent au portillon pour ranker ce genre de site.
Alors, deux choses. Moi, je fais partie de ceux qui, dès qu'il y a quelque chose, ben là, tu vois, comme par exemple cette histoire de master franchise, hein, avec Fitness Boutique, dès que j'ai vu que ça a commencé à voilà, partir un petit peu en vrille, clac, de suite, j'ai coupé. AdSense, 2008, pareil, j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça marchait moins bien. L'affiliation poker, qui est sans doute l'affiliation avec laquelle j'ai gagné le plus d'argent, pareil, il y a eu un moment donné, où, bien avant l'Argel d'ailleurs, où ça a commencé à flancher, et boum, j'ai arrêté, j'insiste pas, je change. Non, pourquoi j'ai plus fait? Bah, tout simplement par fainéantise, parce que bah, le conseil me rapportait suffisamment. Et puis quand tu gères, on se rend pas compte, mais c'est très très épuisant quand de fonctionner surtout à distance sur Skype, et quand tu fais 1 heure de consulting qui est quand même pas donné, tu donnes beaucoup, et quand t'en fais 4-5 par jour. Après, t'es rincé, quoi. Donc, ensuite, s'il fallait le soir en plus m'occuper de mes propres sites, même s'il y a des gens avec qui je bosse, même si je délègue, etc., c'était beaucoup. Mais là, aujourd'hui, je me suis réorganisé. Je ralentis un petit peu sur le conseil pour effectivement repartir sur des trucs un petit peu rigolos qui m'amusent, puisque bah, tout le monde s'est arrêté justement de spammer. Donc moi je dis que c'est encore tout à fait possible de faire des choses assez rigolotes et assez agressives. Et donc voilà, je fonce là-dedans, quoi. Mais de l'autre côté, ça n'empêche pas aussi de faire des choses propres et bien comme il faut, hein. Je dis pas que le enfin, quand je dis spammer Google, c'est comment te dire? On enfreint les guidelines Google, on profite de faiblesses algorithmiques. Par contre, il n'y a rien d'illégal. Je n'enfreins pas la loi. J'enfreins la loi de Google. Donc, est-ce que vraiment c'est mal? Chacun de juger.
Après, si tu suivais les règles de Google, effectivement, tu ne pourrais rien faire. Justement, eux, ils t'expliquent que le référencement, c'est mal et qu'il faut tout faire de façon naturelle.
À partir du moment où tu fais un lien, déjà, tu es en contradiction avec les guidelines. Eux, ils disent, voilà. Fais du super contenu et puis ton contenu il est tellement génial que tout le monde va le trouver génial et tout le monde va le faire du lien. Ok. Bah, moi j'ai testé, hein, ça marche pas.
Donc, tu as mentionné tout à l'heure que tu t'entourais, etc. Comment ça fonctionne pour toi? Tu as une équipe de gens qui sont fixes ou tu travailles avec des freelances à qui tu délègues une partie du boulot?
Alors, moi j'ai testé de vouloir monter une agence. C'était à la belle époque d'AdSense, justement. Donc, c'était une usine, ce qu'on appelle MFA, hein, des Made for AdSense. J'avais monté à Casablanca. Et j'ai même répété aussi une autre expérience en France. Mais je suis pas fait pour ça, moi. Avoir une agence, avoir des dizaines d'employés à gérer, etc., c'est pas mon truc. Donc, j'ai tout testé. J'ai essayé les freelances, j'ai essayé les partenariats. J'ai essayé Odesk, freelancer, tout ça. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est j'ai une employée à plein temps qui vit aussi, qui est sur place, hein, en Andorre. Ça, c'est indispensable. Elle fait tout ce qui est administratif, tout ce qui est. Bah, enfin, je ne peux même pas décrire toutes ces tâches, hein, puisque c'est tellement divers et varié. Et ensuite, c'est un réseau qui. Moi, ça fait partie de mon conseil de pouvoir donner à mes clients la meilleure solution par rapport à leurs besoins, par rapport à leur budget. Ce sont des gens avec qui je travaille en toute transparence, c'est-à-dire que je ne touche pas de commission si je leur envoie un prospect, mais c'est plutôt parce que voilà, c'est des gens qui, à mon avis, correspondent aux besoins du client. Donc, voilà, pour répondre simplement, ma structure est composée une employée à plein temps, et ensuite c'est que des partenaires qui s'occupent de ben, que ce soit la technique, le contenu et la popularité pour les besoins clients et aussi pour mes besoins perso.
Donc tu veux dire que une partie de la valeur que toi tu apportes aux clients, c'est justement le fait que tu as des partenaires de confiance chez qui tu peux les envoyer, même si toi tu ne fais pas forcément voilà, l'ensemble de ce dont ils ont besoin, toi tu connais les gens vers qui les pointer.
Exactement. Ça fait part, voilà, ça fait partie de mon rôle de en premier je leur explique comment ça fonctionne. En théorie, ils ont besoin de personne, ils peuvent tout internaliser, mais bien souvent on se retrouve dans la problématique du volume. Donc quand on veut en faire plus, ben oui, il faut souvent avoir recours à des ressources extérieures et tout à fait, ça fait partie de ma prestation de pouvoir leur conseiller les meilleures personnes possibles pour le job.
Et donc, du coup, toi, en tant que Laurent, tu interviens vraiment dans un rôle de pur conseil où tu donnes des recommandations. C'est rarement toi qui vas aller mettre en place les sites, mettre en place les liens, etc. J'imagine que tu n'as pas le temps d'aller faire l'ensemble du travail sur le terrain.
Ça arrive, en principe. Une ou deux fois par an, avec des clients avec lesquels je travaille depuis longtemps, où on monte d'un certain niveau du point de vue collaboration, et je m'implique beaucoup plus, jusqu'à même prendre des responsabilités en, enfin, partie prenante, hein, dans l'exploitation, dans l'entreprise. Mais oui, c'est très, très minoritaire. Normalement, ça se cantonne uniquement au rôle de conseil. Et d'ailleurs, ça peut être souvent des missions très très spécifiques, hein. Par exemple, je sais pas, une refonte de site, une sortie de pénalité, des trucs comme ça, quoi.
Donc du coup, d'où viennent tes clients aujourd'hui? Ils viennent directement sur ton site et ils te contactent par ton formulaire de devis? Ou est-ce que tu as des, voilà, est-ce que tu as des stratégies particulières que tu utilises?
Il y a déjà une stratégie que je n'utilise plus. Je l'ai testé dans le long, large, en travers, et honnêtement, alors ça peut paraître contradictoire pour un référenceur de dire ça, mais les prospects qui viennent depuis les requêtes Google ne sont pas bons. Ce n'est pas des bons prospects, c'est des gens qui sont là en train de se demander un petit peu comment ça marche et combien ça coûte. Ils vont perdre du temps plus qu'autre chose. Le vecteur numéro un, c'est le bouche à oreille, la recommandation. J'ai fait en sorte que qui que ce soit demande des noms de consultants en référencement, dans les 4 fois sur 5, il faut que mon nom apparaisse, quoi. Et ça, le travail, c'est d'être le plus visible au travers de. Alors, c'est là que c'est très compliqué, parce que moi, ma communauté, les gens qui sont mon audience, ce sont mes concurrents, ce n'est pas mes clients ou mes futurs clients. Donc, il faut que j'essaye d'être tellement excellent pour être recommandé par mes concurrents. Je sais pas si tu vois le truc, quoi.
Ouais.
C'est pas très simple.
Et donc du coup, comment ça fonctionne concrètement? C'est ton contenu, c'est ton blog, c'est ton podcast?
Nos conférences aussi beaucoup, hein. Là, j'ai ralenti fortement, mais j'ai passé 2014-2015 où ça m'est arrivé de faire 3-4 conférences par mois, quoi. Donc, beaucoup de terrain rencontré. Le réseau, c'est ça, c'est aller serrer des poignes, aller boire des bières. C'est pas forcément la conférence en elle-même le point névralgique, et surtout pas. Souvent, on me demande, mais comment tu calcules ton retour sur investissement en conférence? Non, moi, je calcule pas que si je me déplace, il faut que je ramène 3,7 devis, quoi, à la sortie de la conférence. Non, non, c'est sur le long terme, c'est globalement, mais travailler sa visibilité, c'est surtout ça pour moi, c'est sur le terrain. Après, avoir un blog, faire des podcasts, tout ce que tu veux, bien sûr, ça fait partie du mix, mais c'est je pense pas que ce soit là encore une fois, en tout cas me concernant, pour d'autres thématiques, c'est différent. Pour la tienne, je pense aussi, mais pour la mienne, honnêtement, mes auditeurs ou mes lecteurs, ce sont plus mes concurrents que mes clients, quoi.
Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Récemment, quelqu'un m'a demandé, on allait à une conférence à laquelle j'ai déjà été, on m'a demandé comment tirer le maximum de cette conférence. Et en fait, mon conseil, c'était de dire que la plupart de la valeur allait pas être dans la salle avec le présentateur, ça allait être ce qui se passe autour de la conférence. La valeur, elle est au petit déjeuner, elle est au bar après la conférence, elle est pendant la pause de midi, elle est avec les gens avec qui tu vas être coincé dans un taxi pendant une demi-heure et tu vas discuter de sujets ou d'autres. Et c'est là, en fait, que moi, j'en tire le plus de valeur. Et au final, le présentateur est juste là pour faire un fil rouge. Mais c'est les rencontres que tu vas faire à l'extérieur, dans la conférence, qui, moi, m'ont le plus apporté d'un point de vue purement business, quoi, en termes financiers. C'est pas, voilà, le présentateur qui m'a appris un truc qui va changer ma vie. En revanche, c'est un gars que j'ai rencontré au bord de la piscine qui m'a donné, voilà, une idée qui vaut beaucoup.
Ah, c'est clair, ouais. Pour moi c'est évident. Ça enlève pas l'intérêt de conférences qui, bien sûr, vont pas changer ta vie, mais te donner des idées, te suggérer des pistes d'exploration. Ceux qui viennent chercher les secrets du web marketing ou du référencement dans les conférences, ils ont pas trop compris le film. Mais par contre, ouais, c'est mon conseil numéro un, c'est sortez de votre grotte, hein, et puis aller aux apéros. Enfin, dans mathématiques, il y a plein d'apéros SEO, il y a plein d'événements, et il faut y aller. C'est pas très cher, tout le monde est en attente justement de rencontres et de faire connaissance avec des gens. Tout le monde est enthousiaste, donc autant en profiter. Les gens sont prêts. Ils sont prêts à filer les cartes de visite. Donc, alors le pire des trucs que je vois souvent, c'est on te prend ta carte de visite et on fait pas de follow-up derrière. Ça c'est encore pire. Mais même si vous allez au salon du haut commerce ou je sais pas quoi, allez prendre le plus de cartes de visite, de numéros de téléphone et de compte Twitter et tout ce que vous voulez, mais faites le follow-up derrière, faites le job de prendre contact. Et le réseau, moi je dis, il se compte sur le nombre de gens que tu as en contact Skype, et puis voilà quoi. Hein.
Ouais.
C'est surtout ça. Hein.
Donc je voudrais un petit peu changer de vitesse avec toi, parce que j'ai vu que tu avais fait tes études aux USA. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu cette expérience-là a eu un impact particulier sur ta façon de penser, sur ta carrière, par rapport à des gens qui auraient fait un cursus en France?
Ce que ça m'a donné, c'est. Aux États-Unis, il y a ce côté naïf, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire de se lancer, de faire des trucs, et puis advienne que pourra. En France, tu as tellement de freins, c'est-à-dire il y a la famille, il y a les amis, il y a le gouvernement, il y a tout ça qui t'empêche, t'as pas le droit d'échouer. Tandis que ce qu'on appelle la culture de l'échec aux États-Unis, c'est au contraire, c'est t'es légitime parce que tu t'es planté. Et puis, t'as pas peur de ça, t'as pas peur de te planter. Et c'est ça qui te donne des ailes parce que si tu tournes en rond pendant je sais pas combien de temps à essayer de faire en sorte que ton idée soit parfaite, moi, j'y crois pas. Au contraire, moi, j'ai lancé plein plein de trucs, à 80% des trucs qui sont des merdes dont je suis pas fier. Et puis, oui, au-delà de ça, il y a peut-être ouais, 1% qui a tout explosé. Ou alors, si on prend un modèle, allez, un peu plus positif. Mettons, tu lances 10 projets, tu en as 5 qui vont rien faire, d'accord? Ils vont être à perte. Tu en as 4 qui vont survivre. Et puis, tu en as un qui va faire le job. Ça, c'est le modèle éternel, que ce soit quand tu veux investir en bourse ou quoi que ce soit, qui quand même fonctionne relativement bien. Mais. La plupart des gens que je rencontre, même au sein de mes prestations, sont encore bloqués dans ce truc de ben non, je veux pas faire de vidéo, je veux pas faire de ceci parce que ah, je vais avoir l'air ridicule, je vais avoir. Enfin, tu te souviens, toi, de la première fois que t'as fait un podcast, c'était pas génial, quoi.
Ah, je m'en souviens et c'était catastrophique. Et les gens m'envoyaient des messages pour me dire qu'on comprenait rien à ce que je disais. Parce que j'avais tellement peur de ne pas être intéressant que je parlais à 1000 à l'heure. En plus, je m'étais dopé au café complètement avant, donc ça n'arrangeait rien. Et voilà. Donc les gens, dans mon premier podcast que j'ai publié, qui n'est pas sur Marketing Mania, qui était sur un autre site, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Donc j'avais publié un épisode de 15 minutes où les gens se disaient c'est super, ça a l'air pas mal ce que tu racontes, mais tu parles trop vite. Et ça m'a pris 3-4 épisodes à corriger ça.
Faut essayer plein de formats. Moi, j'ai essayé plusieurs trucs. J'en ai d'autres que je vais tenter. Moi, mon machin d'enregistrer des conversations Skype et de les uploader comme ça en format brut, hein, et c'est pas par flemme de pas faire de post-prod, mais plutôt parce que c'est le format que j'ai envie de donner. L'idée, c'est qu'on est deux pros en train de discuter, et puis toi, t'es une petite souris là au milieu en train d'écouter avec la conversation, avec tous les défauts qu'elle doit avoir, tous les blancs, tout ça, quoi. Mais ça, c'est arrivé par hasard. C'est simplement un jour, j'ai pris un pote, hein, Sylvain Perronnet, et puis je dis, bah, tiens, on va enregistrer notre conversation et je vais la publier. Et puis ça a fait un carton. Mais j'avais pas calculé pendant 107 ans que c'était ça le format idéal. Moi, peut-être l'article, l'action qui a fait le plus gros buzz, c'est quand j'ai fermé mes commentaires. Comment voulais-tu que j'imagine que j'anticipe que la fermeture de mes commentaires allait faire une révolution sur le web, quoi. Jamais de la vie, mais il faut tenter.
Tu peux me remettre un peu le contexte de ce qui s'est passé quand tu as fermé tes commentaires?
Depuis un moment, je trouve que la qualité, la quantité des commentaires est en chute libre. Voilà. C'est un constat que je faisais. Ça fait un moment, ça faisait même des mois et des mois que ça commençait à m'énerver. J'y avais les gens te répondent ou t'interpellent sur Twitter plus que sur ton blog finalement. Donc un jour, j'ai dit, bon ben voilà, j'en ai marre, je ferme les commentaires. Si vous voulez me contacter, contactez-moi par email, par Skype, par Twitter, ce que vous voulez, mais plus en commentaire de blog. Et c'est comme si j'avais touché à quelque chose de sacré, quoi. Et alors, ce qui a été magique, c'est que j'ai dit, voilà, si vous voulez répondre, faites un billet de blog. Et comme ça, on va se faire. Donc, il y a même des gens qui étaient pas de mon avis, mais pour exprimer qu'ils n'étaient pas de mon avis, ils ont même été obligés de réactiver leur vieux blog ou faire un billet de blog alors qu'ils étaient contre le fait que je disais, voilà, faites un billet de blog si vous voulez me répondre, quoi. Donc ça, c'était assez rigolo.
Pourquoi est-ce que les gens étaient aussi choqués, à ton avis, par le fait que tu avais fermé des commentaires? Ça semble quelque chose vraiment qui devrait être ta décision. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ça a touché un nerf comme ça?
Parce qu'ils pensaient que je fermais la discussion.
D'accord.
Je ferme pas la discussion, c'est simplement, je trouvais que le format commentaire n'était plus du tout approprié aux usages, en tout cas dans ma thématique. Je vois bien, même depuis l'avènement de Twitter, les forums sont morts, voilà quoi, il faut se mettre à la page. Maintenant, je ne dis pas que c'est une généralité sur toutes les thématiques, mais en tout cas, sur le référencement, ouais, on a vu vraiment glisser. Alors, il y a eu l'arrêt du spam des commentaires, merci Google qui s'était un petit peu fâché par rapport à ça, mais ensuite, ouais, il y avait, enfin, c'était net, hein, il y avait une baisse flagrante de la, un, du volume, et deux, surtout de la qualité, quoi. Il n'y avait plus grand-chose d'intéressant. Et puis, si tu regardes le format commentaire, c'est quand même très archaïque quand tu veux discuter et avoir. Compte combien de fois tu as vraiment eu une discussion. Je parle donc plusieurs séries de questions-réponses ou plusieurs commentaires hein, sur un billet de blog. C'est super rare, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main dans une année. Et encore, je suis gentil. L'habitude, tu as un commentaire, tu réponds, et puis le mec, tu sais même pas s'il est venu lire ta réponse ou quoi, mais c'est très très rare qu'il réponde à ta réponse, quoi.
Ouais, il doit être notifié par email et cliquer, revenir, et ensuite il reçoit des notifications pour tous les gens qui vont commenter sur ce post. Effectivement. Ok, je vois l'idée. Je voulais revenir un peu avec toi sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure tu as parlé du fait d'être prêt à échouer, de tester des choses, etc. C'est quelque chose qui m'a fait penser à la stratégie SEO. Parce que mon impression, bon, personnellement, moi, je suis à l'extérieur, le référencement, c'est pas trop mon truc. Mon impression par rapport aux gens que je connais qui font ça, c'est que le SEO quand même bouge très vite. Ces dernières années, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été complètement éliminés du marché, c'est-à-dire des gars qui faisaient voilà, un bon salaire sur Internet juste en montant des sites, qui du jour au lendemain se sont pris une claque et dont leurs sites ont disparu totalement des rankings. Et donc, les mecs sont passés de plusieurs milliers d'euros par mois à zéro. Est-ce que toi, tu t'es pris ce genre de claque? Est-ce que tu as eu ce genre de revers et comment est-ce que tu les as gérés s'ils sont arrivés?
Alors, moi c'est très simple, j'ai commencé, donc là on repart il y a plus de 10 ans, dans le dur. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait s'est fait éclater. D'accord? Donc la pénalité, ou même je parle de blacklistage, hein, c'est-à-dire là c'est pas descendre, se prendre une baisse de position, c'est tu tapes le nom de ton domaine, il apparaît même plus, hein, il est sorti de l'index. Voilà, tout ce que j'ai fait s'est fait dégager. Donc la pénalité ou le blacklistage, tout ce que tu veux, ou la baisse de trafic, je l'ai toujours intégré dans mon business model. Ça fait partie du jeu. Le problème, c'est que là, récemment, il s'est attaqué aux webmasters normaux, entre guillemets. Les référenceurs, si tu parles de panda, pingouin et tous ces trucs-là, on n'a pas été affecté personnellement. Des clients, oui, mais nous, des pénalités, des updates qui ont vraiment fait mal, c'est plus ce qu'on appelle payday loans, quoi. Ils ont bloqué des grosses requêtes commerciales. Là, ben, il n'y a plus très vraiment la possibilité de grimper sur ces requêtes, quoi. Les résultats sont plus ou moins figés.
Alors, tu veux dire qu'il y a certaines requêtes qui ont été figées par Google de façon indéterminée, comme ça, ils ont dit, maintenant ça reste comme ça, vous pouvez plus ranker là-dessus?
Tu peux toujours, mais c'est-à-dire les efforts à déployer sont multiplié par je ne sais pas combien par rapport à ce que tu devais faire avant. Mais ensuite, il y a même des requêtes qui sont nettoyées manuellement. Enfin, tape sexe. T'as plus de site porno sur la requête sexe. Ça, c'est du nettoyage manuel, quoi. Et ensuite, le problème, c'est pas tellement que le référencement change. c'est que on a pris l'habitude d'utiliser ben, ces fameuses. Les gens ne disent pas qu'ils spamment, mais finalement, oui, ils utilisent aussi des faiblesses algorithmiques, des solutions de facilité. La grande phrase que j'ai, moi, c'est les raccourcis raccourcissent. C'est-à-dire que avant, bah quoi, tu faisais, allez, tu montais ton site, tu faisais tes inscriptions annuaires, et puis basta, ça marchait, quoi. Bon, ben, aujourd'hui, ouais, il faut un petit peu plus se sortir le doigt, et c'est pas plus compliqué, c'est pas nouveau, c'est pas plus difficile. Par contre, c'est un retour aux fondamentaux. On savait comment il fallait bosser, et c'est des bons vieux fondamentaux de la communication et des relations presse et publique, hein. Y a rien de nouveau, quoi. Je veux dire, tu prends les bases du marketing qui ont été déployés dans l'après-guerre et surtout dans les années 60, et c'est exactement ça. Sauf que bah, c'était super fastoche à l'époque, donc on en profitait. Simplement, les gens qui se sont cassés la gueule, ils ne sont pas remis en cause et ils ont pas dit, bon, bah, maintenant, il va falloir bosser proprement et faire les choses bien comme il faut. C'est tout. Tu sais, tu as une seule question à laquelle il faut répondre, c'est de quel droit? Qu'est-ce qui fait que je mérite d'être numéro un par rapport à X facteurs? Admettons qu'il y en ait, allez, 150, 200 facteurs qui n'ont pas tous, bien sûr, la même importance. Par rapport à tous ces éléments, qu'est-ce qui fait que je mérite d'être numéro un? Et quand on regarde, quand on analyse vraiment les choses, ben bien souvent, ouais, tu t'es fait défoncer, mais ben, quand tu mets à plat le constat de est-ce que tu mérites ou pas? Non, la plupart du temps, tu ne mérites pas parce que soit tu es trop faible de ce côté-là, soit tu as vraiment abusé de l'autre. Voilà. Et c'est la seule question, hein. De quel droit? Qu'est-ce qui fait que je mérite d'être numéro un? Pourquoi je suis si fabuleux? Et là, on repart vraiment sur des fondamentaux, je veux dire, de com, quoi, hein. C'est comment tu fais pour être le plus célèbre ou le meilleur ou je sais pas quoi. C'est pas forcément ton talent, c'est plus comment tu arrives à faire parler de toi, comment tu arrives à packager le truc. Enfin, tu connais la fameuse histoire de Lady Gaga, quoi.
Après, a priori, non, je la connais pas.
Bah, elle était chanteuse normale, quoi. Chanteuse pianiste normale. Et puis, à partir du moment où elle a commencé à se mettre à moitié à poil et habillée n'importe comment, bah, ça a marché.
Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu as tenté d'écrire du bon contenu, comme te dit Google, et ça fonctionnait pas. Donc, tu veux dire que le plus important, c'est non pas seulement le contenu, c'est aussi ce qui vient autour en termes de promotion. C'est pas juste la chanson de Lady Gaga, c'est aussi le costume en plume et le costume en viande, etc.
Ce que je dis, c'est que, alors c'est sûr, c'est plus facile de faire de la promo d'un truc qui est quand même de qualité, d'accord? Et je vais faire un parallèle avec l'iPhone ou le téléphone Samsung. Samsung, ils ont bastonné, je crois que le budget pub de Samsung est l'équivalent de Apple, IBM, Dell et je sais plus qui autre combiné, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont assommé du point de vue marketing, mais le produit, qu'on le veuille ou non, ben, il n'est pas finalement si génial que ça. Et là, aujourd'hui, la réalité est que Samsung est en chute libre du point de vue des ventes. Après, de l'autre côté, Apple aussi, hein, faut pas croire qu'ils se vendent tout seuls, les bidules. Apple, c'est dans le top 3 des investisseurs AdWords, hein, sur la catégorie high-tech, c'est 90% de marketing. Mais par contre, derrière, oui, le produit est un petit peu plus sympa, donc ça fonctionne. Donc oui, on peut faire du marketing sur de la merde, mais donc je dis pas que le contenu de qualité, c'est pas bon, mais quand tu t'adresses à un robot, Google, c'est un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit. Faut arrêter de délirer. Toute cette espèce de guerre psychologique autour de la pénalité panda qui est basée sur le contenu, la qualité du contenu, qu'on m'explique ce que c'est que la qualité, par rapport à qui, par rapport à quoi. On va tous les deux voir un film ou bouffer dans un resto. Toi, tu peux aimer, moi, je peux détester. Enfin, voilà, tu vois, comment un robot, lui, va déterminer la qualité? Ben, je suis désolé, quand on analyse bien les choses, il peut pas analyser la qualité à partir du moment où un texte va être, du point de vue grammaire et orthographe, correct, que ce soit un texte qui a été acheté à 5 euros sur TextBroker ou à 500 euros par un journaliste français. Il ne peut pas faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'environnement. Si tu regardes ce qu'on appelle la footprint, c'est-à-dire tous les éléments autour du texte, alors ça va être déjà à quel domaine il est rattaché. Le même texte, hébergé sur un site comme Wikipédia ou alors sur un blogspot que tu vas ouvrir, va pas avoir le même effet, on est d'accord. Le texte sur Wikipédia, lui, il va grimper parce que ben, il est poussé par un énorme domaine, alors que ton pauvre petit blog que tu as ouvert comme ça du jour au lendemain, le même contenu, il n'est pas dans le même environnement. Ensuite, sur la page en elle-même, il y a plein d'indices. Est-ce qu'il y a un auteur? Est-ce que cet auteur a une empreinte digitale, une empreinte numérique, une digital footprint autour de lui? Est-ce qu'il y a les commentaires, les partages, tout ça? Enfin, il y a tout cet environnement qui fait qu'une page est attractive ou pas. Mais je fais dans mes formations une démonstration sur... D'un côté, je prends un article qui est hébergé sur une ferme de contenu qui a été pénalisée par Google, qui s'appelle eHow, eHow, et c'est un tuto pour comment lacer ses chaussures. D'accord? Et tout le monde se fout de la gueule de cette page parce que, bah ouais, voilà quoi, en 9 étapes, comment lacer tes chaussures. Et voilà, c'est une ferme de contenu, donc avec tout ce que ça. Je sais pas si tu veux que j'explique ce que c'est qu'une ferme de contenu, mais c'est en fait des sites qui fabriquent des pages en fonction des requêtes des internautes. Donc là, c'est non seulement ils ont fait un article sur comment lacer les chaussures, mais aussi toutes ces déclinaisons, c'est-à-dire comment c'est faire des lacets en oreilles de lapin, comment lacer tes tongs, comment lacer je sais pas quoi. Et il y a tout l'environnement avec abondance de publicité, pas d'auteur identifié, justement, pas de partage sociaux, etc. Et de l'autre côté, je prends une. Tu connais TED.com, je suppose?
Oui, bien sûr. Donc le fameux site des conférences en 15 minutes.
Voilà. Qui est un des sites donc les plus prestigieux du web, on peut l'admettre. Et bam, je te le donne en mille, il y a Terry Moore qui a fait une conférence sur comment lacer ses chaussures. Sa démonstration est brillante parce qu'il t'explique depuis l'histoire du début de l'humanité des lacets, on n'a jamais su faire nos lacets. C'est vrai, tu fais tes lacets, tu vas te courir, même si tu fais un double nœud, au bout de 5 minutes, il se défont, il se lâche. Donc ça marche pas, on ne sait pas faire nos lacets. Il y a une transcription écrite, donc on peut comparer le texte écrit d'un côté et de l'autre. Hein. Et le texte écrit de la vidéo, il n'est pas fabuleux. Je veux dire, c'est une transcription d'une vidéo, c'est vraiment du texte. Tu vois, c'est pas un gagnant au prix Pulitzer. Et de l'autre, le texte sur eHow, il est tout à fait correctement écrit, tout ce que tu veux. Mais bien sûr, c'est le jour et la nuit par rapport à l'environnement de ce texte. Donc voilà, j'essaie un peu de désacraliser cette histoire de qualité du contenu, en tout cas par rapport au jugement du robot. Mais pour en revenir à ta remarque initiale, c'est un peu une boutade. C'est effectivement récemment, j'ai lancé un site en disant, bon ben voilà, on va pas faire de lien, par contre, on va faire du contenu intéressant. J'ai pas dit contenu de qualité, c'est autre chose du contenu intéressant. Contenu intéressant, c'est du contenu, ça. C'est pas forcément le gros pavé de référence. Ça peut être juste une image, ça peut être une vidéo, je sais pas, un ovni qui atterrit dans le jardin, c'est intéressant, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui fait réagir. Et on fait pas de lien. Et oui, non, 6 mois plus tard, il y avait toujours, je crois qu'il y a eu un lien naturel. Donc, après, on peut écouter Google, hein, et dire oui, on fait du contenu et on manipule pas le naturel, mais. C'est remettre en question. Alors, tout ce qu'on fait, moi j'ai commencé hein, par le marketing et la com, hein, les relations presse et publique. Ça c'était au début, avant que le web existe, début des années 90, où le web venait d'apparaître. On remet en question tout ça. C'est-à-dire que on peut plus faire la promo de son truc. C'est vrai dans la vraie vie. Pourquoi ça serait pas vrai sur le web? Pourquoi il faudrait. Je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre, quoi, ce discours. Ce discours qui tient plus de la. En fait, tu sais, ce qui intéresse Google, c'est que lui, il s'en tape de toi et moi, quoi. Donc, c'est à son avantage, hein. Il a voulu un petit peu calmer les ardeurs de tout le monde qui manipulait trop facilement les algorithmes. Et il y a réussi de manière brillante avec une démonstration de guerre psychologique qui a été absolument fabuleuse.
Donc tu veux dire que Google a volontairement changé l'algorithme de façon drastique, de façon à faire peur à tout le monde, à dire à tout le monde que voilà ce qui arrive au référenceur, si tu essayes de trop référencer, si t'es trop agressif, tu vas te faire taper et taper dur parce que tu vas disparaître, tu vas être désindexé ou tu vas être sévèrement pénalisé. de façon à convaincre les gens que le référencement, c'est trop dangereux, ça vaut pas le coup et qu'il faut pas essayer?
Ce que je dis, c'est que nous, les pros, la pénalité, on l'a intégrée depuis longtemps, depuis toujours. C'est quelque chose qui fait partie du biz.
Et donc, aujourd'hui, tu l'as intégré, ça veut dire que tu t'es diversifié, tu as différents sites sur différentes stratégies. Comment ça fonctionne concrètement?
Bah, que quand un site se fait éclater, ok, tu peux verser une larme, mais ensuite, tu creuses une tombe, tu mets une croix sur la tombe et tu traces ta route, tu continues. Ça, on le sait. Maintenant, quand tu es un webmaster normal, que tu n'es pas au fait de toutes ces choses-là, mais que tu le prends sur le coin du nez, là, ça fait mal, comme tu dis. Quand tu te retrouves de 3000 un jour et puis à zéro le lendemain, ça fait très très mal. Et il s'est attaqué à ces gens-là. Et c'est ça qui a fait que ça a fait boule de neige, c'est de s'attaquer, voilà, à des gens normaux et de faire planer la menace que, ben, il fallait, voilà, il faut plus abuser, il faut plus tricher, il faut faire les choses bien comme il faut, parce que si tu fais pas bien les choses, tu vas te faire éclater. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas nettoyé ses résultats de recherche. Enfin, moi, je rencontre toujours plus ou moins des sites qui n'ont pas vraiment leur place là. Donc, oui, c'est pas vrai qu'il a nettoyé du jour au lendemain. Parce que c'est pas possible. Pour moi, il est arrivé à une limite du point de vue évolution. Alors, le moteur de recherche tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire sa version desktop, d'accord? Ensuite, moi, je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus dans des tripes de predictive search, ou je sais pas si tu vois ce que c'est, je sais pas si vous l'avez en Thaïlande, Google Now.
Ça existe.
Bon, ben ça c'est le futur. Ça, c'est le futur.
C'est le futur du SEO, c'est en fait les prochaines évolutions de l'algorithme.
Du search,
Ouais,
ouais, du
ok.
search. Enfin, il devient plus un moteur de réponse,
Ouais.
quoi. C'est-à-dire qu'il est là, même avec Google Now, ouais. C'est sans doute le prémisse de ce que va devenir Google, qui permet d'anticiper tes recherches et de te donner la réponse avant même que tu l'aies pensé. C'est fabuleux. Mais dans le format moteur de recherche tel qu'on l'a connu sur desktop, il peut pas évoluer tant que ça. Tu sais, c'est super compliqué, hein, il y a une règle numéro un chez Google qui s'appelle le sanity check. C'est bien beau d'avoir les meilleurs ingénieurs et docteurs S algorithmes du monde, d'avoir tout le pognon de la planète, mais le problème, c'est que il faut ensuite l'implanter à l'échelle industrielle d'un bousin de la taille de Google. Je sais pas si tu imagines la complexité de quelque chose qui marche en laboratoire, tu vois, pour contrer le spam. Ou par exemple Gmail. Gmail est un exemple fabuleux de comment ils ont réussi à éliminer le spam. Parce que grâce à l'intervention humaine de tous les gens qui cliquent sur le bouton indésirable, l'algorithme a appris. Ça s'appelle le machine learning. Et aujourd'hui, ta boîte mail est quasiment vide de tous les spams. Parce que grâce aux humains qui ont cliqué sur le bouton indésirable et grâce au fait que le format des spams est reconnaissable assez facilement. Mais maintenant, sur le search, sur les résultats organiques, c'est une autre paire de manches, quoi. Soit, qu'est-ce qu'on fait? On vide tout et on recommence à zéro. Ou alors, on patch, on fait des petites évolutions, on bidouille comme on veut. Mais n'oublions pas que c'est quand même une vieille machine des années 90 et qu'ils ne peuvent pas faire table rase comme ça. Donc, ils ont trouvé un biais grâce à cette InfoWar, grâce à cette guerre psychologique basée sur ces deux pénalités, panda et pingouin. Que la guerre psychologique, c'est quoi? C'est en ayant en guerre psychologique, voilà, les bombes atomiques qui ont arrêté la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon. Minimum de ressources déployées, impact minimum, effet maximum. Tu as lâché deux bombes, tout le monde s'est calmé net. Pareil pour Panda et Pingouin. Ils ont dit, voilà, ça va être la révolution, on va tous vous mettre d'accord. Et effectivement, bah, tout le monde s'est mis au garde à vous. Alors que derrière, non, tout s'est pas arrêté du jour au lendemain, quoi. Pourtant, la planète web s'est arrêtée, je me souviens, hein, surtout quand Pingouin est tombé. Donc Pingouin, pour rappel, ça touche les liens. C'est-à-dire que c'est si vous avez des liens crades, vous pouvez être pénalisé. Jusqu'à présent, les liens crades, ils les ignoraient. Bon, ben, pendant peut-être 3-4 mois, il n'y a plus un seul lien de fait sur toute la planète web, quoi. Les gens étaient terrorisés, donc ça a marché remarquablement bien. Mais je ne crois pas qu'ils aient réglé le problème et Google n'est pas devenu meilleur, en tout cas n'a rien révolutionné en interne du point de vue des algorithmes. C'est vraiment plus un effet de com qu'autre chose, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis que oui, il y a encore la place de faire des trucs. Alors est-ce que c'est sur. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs Google, quoi. Ce que tu peux faire déjà sur des requêtes secondaires ou tertiaires pour parler. Pour illustrer ça facilement, ce que tu peux te permettre de faire sur location de chambre d'hôte dans l'Uberon, tu peux pas le faire sur Viagra. C'est pas les mêmes filtres. Viagra ou Poker ou des trucs comme ça sont filtrés, ont des filtres qui sont beaucoup plus aiguisés que sur des requêtes secondaires. Et puis en plus, c'est très difficile du point de vue linguistique. Tu te rends compte que de comprendre la langue, de l'interpréter, d'arriver à ensuite mettre en place un classement. Ça change. Regarde l'espagnol, je crois que c'est la langue officielle dans je sais pas combien, je crois 25 pays, un truc comme ça. Et puis en plus, même t'as, regarde les États-Unis, je sais pas combien d'espagnols différents entre les espagnols d'Espagne, ceux d'Amérique du Sud, etc. Donc c'est très très compliqué. Et ça veut dire qu'on peut se permettre. Là, j'ai fait des tests moi sur Google Brésil et Google Venezuela où on est 5 ans en arrière. Je sais pas comment ça marche avec Google Thaïlande, mais on peut faire des trucs qui ne marchent plus sur Google France ou le Google.com.
Et la France est en retard sur les États-Unis par rapport à l'algorithme?
Je ne sais pas s'ils sont peut-être en retard sur certains trucs, mais c'est quand même bien filtré. Non, si, c'est quand même bien en avance. Mais si tu prends même des Google, allez, Google Belgique. En plus, la Belgique, la concurrence est bien moindre et puis tu peux focaliser sur la partie francophone de la Belgique. Tu peux encore t'éclater à faire plein de choses que tu peux plus faire parce que ça marche plus sur le Google France quoi, le .fr. Donc c'est un petit peu ça. C'est pas, moi je te dis, c'est pas forcément que ça évolue, que ça soit devenu plus difficile tout ça. C'est, il faut avoir vraiment une vision très claire par rapport au fait que non, Google a rien révolutionné jusqu'à preuve du contraire et ne comprend pas ce qu'il lit. Ce qui est quand même un point essentiel pour piger que ben ouais c'est très très compliqué pour lui hein, de l'autre côté pour interpréter pour essayer de calculer qui mérite plus qu'un autre ouais moi je dis que il faut remettre en perspective le fait que c'est qu'un robot stupide qui comprend pas ce qu'il lit et que l'algorithme, ben, les algorithmes, hein, c'est pas qu'un algorithme, mais les algorithmes peuvent avoir des centaines de paramètres. Nous, on a un cerveau avec des 3 ou 4 milliards de neurones. Je vois pas comment il arrive à nous la faire à l'envers, alors que tout le monde est terrorisé, hein, depuis 3-4 ans, là. Non, depuis c'est quand? De 2012, je crois que c'est ça. Première pénalité panda. Tout le monde est terrorisé et ce qui fait mal au cœur, oui, c'est effectivement qu'aujourd'hui on voit le référencement comme quelque chose de mal, alors que pas forcément, hein. On est quand même là pour mettre en avant un produit ou une page web en l'occurrence. C'est un travail de promotion. D'ailleurs, j'aime pas parler de référencement, je préfère parler de visibilité au sens global. Parce que visibilité comprend bien plus de choses que simplement l'objectif du top 3 sur des mots-clés Google, quoi. Visibilité, c'est l'ensemble des vecteurs que tu peux acquérir pour amener du trafic. Et ensuite, on travaille sur d'autres plans qui vont être la notoriété, l'autorité, la popularité. Et là, t'as trois niveaux qui vont ensuite se répercuter directement sur ton camembert de trafic, hein. Donc c'est un petit peu réducteur le terme de référencement.
Pour terminer avec toi sur cette interview, je voudrais te poser trois questions rapides. La première, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Un livre, si je devais vraiment donner qu'un seul, moi je dirais Breakthrough Advertising, de Gene Schwartz.
Classique.
Ouais, mais enfin c'est quand même.
Un excellent classique.
Et après, si. Ouais, non, un seul, tu m'as dit. Donc,
Oh, tu as le droit d'en donner un deuxième.
non, un autre qui est alors beaucoup moins connu. Qui serait Unlabeled de Marc Ecko. Je sais pas si tu vois qui c'est, Marc Ecko.
Oui, c'est un gars qui a monté une marque de fringues aux US sur le fait de. C'est lui qui envoyait les packages, c'est ça? Il créait des packages, il les envoyait à des célébrités. Et ensuite, quand les mecs portaient ses habits, ça lui faisait de la promo gratuite.
Bah lui, il partait, attends, il devait investir la communauté du hip-hop, d'accord?
le gars, il partait avec un gros désavantage. C'était un petit gros du blanc du New Jersey, d'accord ?
Ouais.
Chaud. Et en fait, son propos, c'est de comment tu arrives à te packager, c'est-à-dire que son image de couverture est très parlante, puisque c'est le dessin d'un corps humain. Et en fait, ce que les gens voient de toi, c'est ta peau. C'est la réflexion de ton apparence, c'est la peau. Mais à l'intérieur, tu as les organes, tu as les os, tu as tout ça. Donc comment tu façonnes ton image, voilà, comment la réflexion que les gens ont de toi n'est pas forcément tout ce que tu as à l'intérieur. Il faut bien le travailler, ça, comment t'es perçu venu de l'extérieur, et surtout quand tu pars avec des désavantages énormes comme lui il a fait. Il raconte son histoire, et c'est assez fascinant. Et puis surtout du point de vue com, il a fait des choses extraordinaires, quoi. Le plus beau coup de buzz que j'ai connu, c'est lui qui l'a fait avec. T'avais une vidéo c'était filmé en caméra infrarouge la nuit où. Que t'avais des mecs qui s'approchaient d'un aéroport, et puis au loin tu commences à voir un avion qui s'approche, puis tu vois que c'est Air Force One, tu vois, et ils vont taguer sur le réservoir d'Air Force One Still Free. C'est un message pour les, puisque lui il est du milieu graffiti, donc il disait voilà, on peut quand même continuer à taguer. Mais donc ça a fait un bruit énorme, tu te rends compte, les mecs ils peuvent s'approcher d'Air Force One pour faire un graffiti, mais non, en fait tu t'approches pas d'Air Force One, à part si tu veux t'auto-décéder. Ils ont loué un avion, ils en ont peint la moitié, ils ont simulé tout le truc.
Ouais.
Mais sinon, je peux te dire, le dernier bouquin que j'ai recommandé, ça serait quelqu'un, c'était alors l'auteur. Oh putain, je ne me rappelle plus. Comment ça s'appelle? Le bouquin de celui qui manipule les médias, là.
Trust Me, I'm Lying, de Ryan Holiday.
Ouais, voilà. Trust Me, I'm a Liar, voilà.
Que j'allais mentionner aussi, parce que tu m'y as fait penser en racontant l'histoire de Marc Ecko et de l'Air Force One. Pour le coup, celui-là, je l'ai lu. J'ai pas encore lu Unlabel. Je pense que je vais le mettre dans ma liste de lecture après ce que tu m'en as dit. Ryan Holiday, ça reste top. C'est donc, il était directeur marketing de American Apparel, et c'est toutes les techniques qu'il utilisait pour avoir de la pub gratuite partout, pour faire parler de lui quand il n'avait pas de budget.
Ouais, il y a une histoire qui raconte. Il faisait la promo d'un film. Et ouais. Bon, le film était un petit peu polémique. Donc, il est allé saccager lui-même les affiches du film. Et il y avait un truc sur le... Enfin, anti-féministe ou je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Et ensuite, il a contacté les associations féministes et il leur a dit, regardez, faut continuer le combat. Ce film, c'est une honte. Et donc, effectivement, il a provoqué plein de manifestations féministes, etc., contre le film, mais qui a fait une promo énorme pour le film, quoi. Donc, voilà. Trust me, I'm a liar. Il vient de sortir en français en plus. Par contre, je sais pas le titre. C'est vrai que je cherchais le titre français, mais je m'en rappelle plus.
Ok. Donc, on va mettre les liens vers tous les bouquins qu'on a mentionnés dans l'article sur lequel sera publié cet épisode. Donc, si les gens veulent retrouver le nom du bouquin en français, nous on le retrouvera et on le mettra dans l'article. Et je savais pas qu'il était sorti en français. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un des bouquins qui m'a le plus marqué. D'un point de vue marketing, mais vraiment approché d'un angle différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, Ryan Holiday, un gars vraiment brillant. Si tu t'intéresses à tout ce qui est philosophie, il a aussi écrit un bouquin sur les stoïques qui s'appelle The Obstacle is the Way, que moi, j'ai adoré aussi, qui m'a énormément marqué, qui a une vision totalement différente du personnage, mais un bouquin qui, moi, m'a beaucoup marqué. Pour terminer sur cette interview, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Alors j'en ai plein, mais pour rester sur mon domaine de prédilection, donc le SEO, il y a vraiment, c'est pas une citation, hein, mais c'est la règle numéro un, c'est le plus acharné qui gagne, quoi. C'est la seule règle. Après, ce qu'on peut faire en embauchant un consultant ou en s'éduquant un petit peu, c'est prendre l'autoroute plutôt que la départementale. Mais il faut jamais lâcher. J'ai jamais vu personne qui n'arrive pas à ses objectifs à partir du moment où il s'en donnait vraiment la peine, quoi. Il y a vraiment qu'une seule règle, c'est ça. Mais ensuite, des citations, citations un petit peu plus smart.
Moi, j'aimais bien celle-là. Moi, je suis tout à fait satisfait avec cette conclusion.
C'est peut-être pas très stylé, mais c'est vraiment la pure vérité dans tout ce qui concerne le référencement en particulier et peut-être même le business en général, quoi.
À mon avis aussi. Moi, je trouve ça totalement parfait comme conclusion. Donc voilà, juste pour terminer, est-ce que tu peux me dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail?
Moi, j'utilise Twitter, hein. Facebook, c'est pas mon truc, donc toutes les infos sinon sont centralisées sur mon site, hein, laurentbourelli.com, et plus particulièrement sur le blog. J'étais un peu feignant ces derniers temps, c'était l'été, mais là je vais me remettre à bloguer de manière un petit peu plus assidue. Donc ouais, pour moi c'est pas pour me trouver, c'est pas compliqué, tout se passe sur mon blog.
Ça marche. Écoute, Laurent, je te remercie d'avoir été avec moi. C'était un plaisir. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et puis, je te souhaite à la prochaine.
Mais c'est moi qui te remercie. Merci Stan.
Salut, Laurent.
Ciao.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez en savoir plus sur le podcast ou sur ce qu'on fait sur marketingmania.fr en ce qui concerne l'optimisation des conversions et le remarketing, je vous propose de vous rendre directement sur le site à l'adresse marketingmania.fr. Vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour recevoir nos meilleurs conseils de conversion. Vous pourrez aussi découvrir gratuitement notre guide complet du remarketing Facebook, qui est en ce moment la technique numéro un que nous utilisons pour augmenter très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une semaine, les conversions sur un site. Je vous redonne l'adresse, c'est marketingmania.fr et cliquez sur le bouton sur la page d'accueil qui dit voir le guide de remarketing. Sur ce, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast où on discutera de comment mieux marketer votre business.